En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le lundi 19 novembre 2007, le professeur Bruno Dubois, professeur de neurologie à l'hôpital de la Salpêtrière, a présenté une communication intitulée « Causes et prévention des dépendances neurocognitives » devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Retrouvons-le en salle des séances.
Mesdames, messieurs les académiciens, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je ne doute pas que vous connaissiez tous cette chanson. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Eh bien, cette chanson, je trouve, est d'actualité et on l'entend de plus en plus fredonner autour de nous. Qui ne s'est jamais plaint d'avoir la mémoire qui flanche, de ne pas se rappeler le nom d'un collaborateur ou d'un ami, de rentrer dans une pièce sans savoir ce qu'il vient y chercher, d'avoir oublié le contenu d'un livre ou d'un film, ou de chercher l'emplacement de clés ou de ses lunettes. Phénomène bien banal, il est vrai, mais qui inquiète. Ne dit-on pas qu'il faut se mobiliser précocement pour ces troubles de mémoire, ce d'autant qu'il y a toujours dans une famille un vieil oncle, un cousin éloigné, dont on a dit qu'il avait perdu la tête à la fin de ses jours. Et la maladie d'Alzheimer n'est-elle pas un peu héréditaire? De quoi être inquiet? Eh bien, sans vouloir rassurer de façon excessive, il faut quand même apporter un certain nombre de précisions qui, je pense, peuvent être utiles. Tout d'abord, la plainte de mémoire est un phénomène banal. Écoutez bien ce chiffre. Plus de 50% des gens âgés de plus de 55 ans se plaignent de leur mémoire. Réfléchissons. Si c'est la majorité, plus de 50% des cas, c'est donc la norme. Allons plus loin. Si c'est la norme, il est normal de se plaindre de sa mémoire à partir d'un certain âge. Ce sont ceux qui ne se plaignent pas qui devraient s'inquiéter. Cette proposition volontairement paradoxale n'est pas totalement sans fondement quand on sait que les patients souffrant de maladie d'Alzheimer, eux, ne se plaignent habituellement pas de ces troubles-là. Ils ne se plaignent même d'aucun trouble. C'est ce qu'on appelle, Monsieur le Président, l'anosognosie, que vous connaissez bien. L'anosognosie est un terme médical qui désigne la non-conscience par le patient des troubles qu'il présente. Et les patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, généralement, sont anosognosiques. Ils ne sont pas conscients d'avoir des troubles de mémoire. Mais alors, il pourrait donc y avoir plusieurs causes à un trouble de la mémoire. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut comprendre comment fonctionne la mémoire, et c'est ce que je voudrais maintenant discuter avec vous. Pour qu'une information soit rappelée, il faut qu'elle passe par trois étapes différentes et successives. Il faut d'abord qu'elle soit bien enregistrée. Le cerveau est un organe de perception. Il enregistre les stimuli qu'il reçoit par différents canaux, canal visuel, canal auditif, canal sensitif, etc. La qualité de l'enregistrement de l'information est déterminante pour la qualité du rappel que le sujet pourra en réaliser ultérieurement. S'il est moins attentif à l'information, celle-ci sera bien moins encodée. C'est par exemple le cas dans la dépression. Mon ami, le professeur Alilaire, dirait mieux que moi que le sujet déprimé est parasité par ses préoccupations, par une rumination mentale, par l'anxiété qui l'empêche de mobiliser toutes ses ressources attentionnelles pour bien enregistrer l'information qu'il reçoit ou l'événement auquel il participe. La trace mnésique qui en résulte sera plus labile, moins stable. Il n'est pas surprenant dans ces conditions que le patient déprimé se plaigne de troubles de mémoire. Et pas parce qu'il a une maladie de la mémoire, parce qu'il a un trouble de l'enregistrement en raison de troubles attentionnels. Deuxième stade, Après avoir été enregistrée, l'information doit être mise en mémoire. Pour cela, elle doit être transférée vers des régions du cerveau chargées de la transformer en traces mnésiques. Ces régions sont connues. Il s'agit de l'hippocampe et du circuit de Papaise, du nom de celui qui l'a décrite pour la première fois. Une liaison bilatérale de ces structures entraîne une incapacité totale à former des traces mnésiques. Ainsi, la scène dont nous sommes le témoin ne pourra pas être gravée dans notre disque dur. Elle sera définitivement perdue. C'est ce que l'on observe au cours de la maladie d'Alzheimer, dont les lésions débutent et touchent principalement les hippocampes. Ainsi s'explique le trouble de mémoire d'effet récent, alors que les faits anciens, acquis et consolidés avant la maladie, sont toujours accessibles. Ainsi s'explique la tendance qu'ont ces sujets à se perdre dans des endroits nouveaux et à poser plusieurs fois la même question, indiquant ainsi qu'ils ne se rappellent pas des réponses qui leur ont été déjà formulées. C'est donc là la deuxième étape. On a vu l'enregistrement, on a vu la transformation en traces mnésiques quelque part dans le cerveau. Dans la troisième et dernière situation, l'information a bien été enregistrée et stockée quelque part dans le cerveau. Mais elle ne peut être récupérée. C'est ce que l'on observe notamment au cours du vieillissement normal. C'est le phénomène classique du bout de la langue. Le sujet sait qu'il sait, mais il n'arrive pas à récupérer l'information car celle-ci nécessite l'activation de stratégies cognitives qui sont sous le contrôle principalement des lobes frontaux. Or, au cours du vieillissement normal, il y a une diminution du métabolisme cérébral dans les régions frontales et qui rend certainement compte de la difficulté d'activation de ces stratégies cognitives. Si, dans les trois situations, le sujet se plaint de sa mémoire, seule la difficulté de mise en mémoire, c'est-à-dire le deuxième stade, lié à l'atteinte des formations hippocampiques, est préoccupante. Le trouble attentionnel au niveau de l'enregistrement ou la difficulté d'activation des stratégies lors de la récupération ne nous inquiète pas. Ce sont des phénomènes qui sont liés à des difficultés attentionnelles ou au vieillissement. Ça n'est pas la maladie d'Alzheimer. Ce qui caractérise la maladie d'Alzheimer, c'est l'incapacité à transformer une information vécue en trace mnésique qui sera ultérieurement accessible. Nous avons mis au point des tests de mémoire qui permettent de différencier ces trois niveaux d'atteinte. Le principe général de ces tests est de contourner l'étape attentionnelle pour analyser plus précisément les circuits de mise en mémoire, c'est-à-dire ce deuxième stade qui, lui, est préoccupant. Dans ces tests, la performance des sujets ayant des troubles attentionnels va se normaliser. Cela nous avait conduit, il y a quelques années, à postuler le paradoxe suivant : plus les sujets se plaignent de leur mémoire, moins ils ont de risques d'avoir une maladie de la mémoire. Soyez donc rassurés. La plainte concernant sa mémoire est donc le prix à payer des sollicitations multiples auxquelles nous sommes en permanence confrontés, surtout dans nos sociétés modernes, mais aussi de la difficulté à mobiliser des ressources attentionnelles qui accompagnent naturellement le vieillissement normal. L'allongement de l'espérance de vie est donc une donnée fondamentale qu'il faut prendre en compte quand on aborde le problème des dépendances neurocognitives. Cet allongement de l'espérance de vie, et j'insiste là-dessus, est d'abord et avant tout une conquête majeure de l'humanité, en même temps qu'un privilège des sociétés dites développées. Aujourd'hui, un nouveau-né de sexe féminin a une espérance de vie supérieure à 90 ans. Une petite fille qui naît aujourd'hui va vivre en moyenne 90 ans. Pour les prochaines années, les scénarios de l'INSEE montre une augmentation de la population totale de la France, mais surtout une augmentation du nombre des personnes âgées. À titre d'exemple, la proportion des plus de 75 ans, qui était de 8% en 2004, devrait passer à 16,1% en 2040, c'est-à-dire demain. Si l'allongement de la vie est une conquête, c'est une chance aussi. En effet, l'allongement de la vie a de multiples conséquences qui ne sont pas toutes négatives. Loin s'en faut. C'est une source de croissance et de développement potentiel. Les personnes âgées ont vu s'accroître leur pouvoir d'achat et leurs besoins génèrent des activités économiques nouvelles, il faut le rappeler. Ils peuvent aussi, par des activités bénévoles ou associatives, contribuer au renforcement du lien social. Mais la progression du nombre de personnes âgées est aussi un défi. Il ne faut pas se cacher cette réalité. En effet, le vieillissement de la population va mettre en tension la plupart des éléments du système de protection sociale et, s'il n'est pas correctement anticipé, risque de mettre à mal la solidarité entre les générations. Ce d'autant que la maladie d'Alzheimer est d'autant plus fréquente que la population avance en âge. Aujourd'hui, elle frappe 850 000 Français, avec chaque année 165 000 nouveaux cas pour un coût annuel de 10 milliards d'euros. Près de la moitié des patients sont à un stade de sévérité où la proportion de patients dépendants est de 90%. Même s'il ne s'agit que d'une estimation, il ne fait pas de doute que ces chiffres ne peuvent que s'accroître dans les années à venir. Alors, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ? La maladie d'Alzheimer est définie cliniquement comme une démence dégénérative. Le terme de démence en médecine n'a pas le même sens que dans le langage courant. Là, je voudrais m'arrêter un instant pour vous expliquer ce que nous entendons, nous, sous cet affreux terme de démence. Il ne s'agit en aucun cas de folie ou de déraison. Ce terme renvoie, je dirais simplement, à la notion de perte d'autonomie. Et dément, pour le médecin que nous sommes, un sujet qui ne peut plus se prendre en charge et qui est dépendant. Ce que l'on évalue en interrogeant son entourage, par exemple sur sa capacité à se déplacer seul, à utiliser les transports en commun, à prendre ses médicaments sans aide, par exemple. La maladie d'Alzheimer débute par des troubles de mémoire qui portent surtout sur le rappel des faits récents qui se sont passés dans les heures ou les jours qui précèdent. Puis apparaissent des difficultés d'orientation dans le temps et dans l'espace, un manque du mot qui rend le discours moins compréhensible, une difficulté pour la réalisation de gestes pourtant bien connus ou pour la reconnaissance de visages pourtant familiers. Parallèlement s'installent des troubles du comportement avec apathie le plus souvent, parfois agressivité ou délire. L'ensemble de ces troubles retentit plus ou moins rapidement sur l'autonomie du patient. Si la maladie touche le plus souvent la personne âgée, il faut quand même rappeler qu'elle peut survenir plus tôt, avant 60 ans. On évalue à près de 20 000 le nombre de formes à début précoce en France. 20 000 patients qui ont une maladie d'Alzheimer âgés de moins de 60 ans. Le patient le plus jeune que nous ayons vu en France était âgé de 28 ans. Car la maladie d'Alzheimer est d'abord et avant tout une maladie du cerveau. C'est même l'affection du cerveau pour laquelle les progrès les plus importants ont été réalisés au cours de ces 20 dernières années. Cela n'est pas assez souvent dit, et je voudrais justement ici passer en revue ces progrès. Si la cause même de la maladie n'est toujours pas connue, le mécanisme des lésions cérébrales en est maintenant établi. Elle résulte de la production excessive d'une protéine, la protéine amyloïde, qui, ne pouvant pas être dégradée par l'organisme, va s'accumuler et s'agglutine pour former des plaques dans le cortex cérébral. Ces plaques amyloïdes, on parle encore de plaques séniles, sont à l'origine de la dégénérescence des neurones. La connaissance de ces lésions permet aujourd'hui d'envisager le diagnostic par la simple mise en évidence de cette protéine dans le liquide céphalo-rachidien. Et la maladie d'Alzheimer est la première affection neurodégénérative pour laquelle des biomarqueurs ont été identifiés. On peut pratiquement aujourd'hui faire le diagnostic de cette maladie par un dosage dans un liquide périphérique. L'étude des lésions de la maladie a eu aussi pour conséquence de proposer une vision nouvelle de l'histoire naturelle de l'affection. On sait maintenant que les lésions débutent tôt dans la vie des patients. Alors comment le sait-on ? On le sait à partir de l'analyse des cerveaux de sujets décédés de toute autre cause. Le sujet décédé d'accident de voiture, de noyade, d'infarctus, bon, très bien. Et on a regardé en neuropathologie le cerveau de ces sujets, et on a vu qu'à l'âge de 47 ans, la moitié des cerveaux présentent déjà des dégénérescences neuronales spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Les études post-mortem, alors maintenant chez les patients, ont révélé que les lésions débutent dans l'hippocampe, et ça renvoie à quelque chose dont on a parlé juste avant, cette région du cerveau qui est impliquée dans les phénomènes de mise en mémoire et de stockage à long terme. Il n'est donc pas surprenant que lorsque la maladie deviendra symptomatique, plusieurs décennies après, les premiers symptômes seront des troubles de mémoire. Alors récemment, nous avons pu caractériser le profil particulier que l'on avait défini comme hippocampique, des troubles de mémoire de la maladie d'Alzheimer, ce qui permet aujourd'hui d'identifier facilement la maladie et la différencier des autres démences dégénératives. Fort de toutes ces connaissances et de ces connaissances récentes, nous avons même proposé cette année les nouveaux critères de la maladie dans le cadre d'un consensus international sur la base d'un syndrome amnésique particulier, le syndrome amnésique hippocampique, associé à une atrophie de l'hippocampe à l'IRM ou à une modification des marqueurs du LCR dont je vous ai parlé juste avant. Peut-on guérir la maladie d'Alzheimer ? Je ne dis pas traiter avec les moyens que nous avons aujourd'hui, je dis vraiment guérir. La cause de la maladie n'est pas connue, nous l'avons dit. Elle n'est génétique que rarement, moins de 1% des cas. Dans l'immense majorité des cas, elle est donc sporadique, et résulte de facteurs complexes non encore identifiés. Mais le paradoxe, et je voudrais vraiment insister là-dessus, le paradoxe est que si l'on n'en connaît pas la cause, on peut espérer pouvoir ralentir, voire même stopper son évolution en bloquant la cascade biologique qui en découle, car cette cascade, elle, est identifiée. C'est de façon un peu simpliste, je dirais que si on ne connaît pas la cause de la maladie, on se connaît les différentes étapes qui découlent de cette cause. Et l'on peut espérer bloquer le système à un moment quelconque de ces différentes étapes. Et donc, espérer retarder l'expression des symptômes, en d'autres termes, envisager de traiter une maladie dont on ne connaît pas la cause. Par exemple, on peut espérer empêcher la formation de cette protéine anormale, et des médicaments sont en cours de développement, qui vont inhiber les sécrétases qui sont à l'origine de l'apparition de cette protéine. Donc on sait comment elle est formée par l'action d'une gamma et d'une bêta sécrétase. Si on inhibe cette sécrétase, on peut espérer empêcher la formation de cette protéine, donc il n'y aura plus cette protéine qui viendra se déposer dans le cerveau de nos patients. On peut aussi faire disparaître les plaques du cortex constituées par cette protéine. C'est la voie du vaccin, ce fameux vaccin dont je voudrais vous parler maintenant. L'idée est très simple. On peut même regretter de ne pas l'avoir eue soi-même. Il s'agit d'injecter par voie périphérique, intramusculaire, cette fameuse protéine anormale qui se dépose, on l'a dit, dans le cerveau de nos patients. Cette protéine anormale injectée en périphérie va favoriser la synthèse d'anticorps par l'organisme du patient dirigé contre cette protéine. Ces anticorps dirigés contre la protéine vont passer dans le cerveau et faire disparaître les dépôts intracérébraux. Cette voie a été couronnée de succès sur les modèles animaux, et nous avons vu ces images absolument époustouflantes, de ces souris transgéniques qui étaient, je dirais, formatées pour faire des plaques amyloïdes, et qui, après injection du peptide en périphérie, on voit disparaître totalement, se laver les lésions. Ces images nous ont extrêmement troublés, et ont créé un enthousiasme un peu excessif au début des années 2000. Il y a eu en effet, à partir de là, des études faites chez l'homme, et vous avez probablement entendu parler de ces études qui, malheureusement, ont entraîné des effets secondaires importants sous la forme de méningoencéphalite immunoallergique, dans 6% des cas. Il y a eu une sorte d'emballement, si vous voulez, du processus immunitaire, et qui a fait qu'on a été contraint d'arrêter ces études, pourtant, qui avait suscité un certain optimisme. Sachez cependant que des nouvelles études d'efficacité et de tolérance du vaccin ont repris en France cette année. Alors, peut-on prévenir la maladie d'Alzheimer ? C'était un peu le sens de la question que vous m'aviez posée, et puisque vous m'aviez demandé d'aborder la question des causes et prévention des dépendances neurocognitives. Donc, en attendant l'arrivée de ces médicaments innovants, il faut chercher à agir sur des facteurs associés, des facteurs parallèles, si vous voulez, qui pourraient retarder l'apparition des symptômes. On parle de facteurs de protection. Agir sur ces facteurs peut avoir des conséquences importantes en termes de santé publique. En effet, retarder l'apparition de la maladie, ne serait-ce que d'une année, entraînerait des économies de plusieurs milliards d'euros pour la collectivité. Alors, quels sont ces facteurs ? Si certains critères démographiques ne peuvent malheureusement pas être modifiés, comme l'âge ou le sexe, qui restent pourtant les principaux facteurs de risque de la maladie, on en a parlé tout à l'heure, le bas niveau d'études est un facteur modifiable sur lequel il est possible d'agir. Ce bas niveau d'études est en effet associé à un plus grand risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et cela, on le retrouve dans toutes les études épidémiologiques. Ce résultat est en accord avec l'hypothèse selon laquelle les sujets ayant un haut niveau d'études ont une plus grande capacité de réserve cognitive, ce qui pourrait retarder l'expression de la maladie. Je pense que cet argument est important pour stimuler en particulier nos enfants pour lire, pour apprendre des récitations et pour développer le plus tôt possible leur réseau synaptique. Là, je pense qu'il y a une action forte de communication à faire auprès des enseignants. Il est établi maintenant que le développement précoce de ce réseau synaptique retarde l'apparition d'une maladie d'Alzheimer. En d'autres termes, le développement du réseau synaptique associé à cette stimulation précoce va retarder l'expression d'une maladie qu'on a par ailleurs. Parmi les facteurs liés au mode de vie, la richesse du réseau et des interactions sociales, les activités de loisirs, comme la lecture, le jeu, les voyages, sont des facteurs potentiellement protecteurs. Cela dit, l'hypothèse d'un arrêt de ces activités dans les stades présymptomatiques de la maladie ne peut être écartée, ce qui se traduirait par une surestimation de l'effet de ces facteurs. En d'autres termes, est-ce que c'est cause ou conséquence ? Est-ce que ce n'est pas les premiers symptômes de la maladie qui font que les patients ont moins envie de se lancer dans des activités de voyage, de lecture ou de stimulation cognitive ? Quoi qu'il en soit, la pratique de l'exercice physique, les efforts d'activité culturelle et intellectuelle, les animations de groupe pour les personnes âgées devraient être massivement facilitées par les politiques municipales. Une association entre facteurs de risque vasculaire et maladie d'Alzheimer a été récemment soulevée. À l'appui de cette hypothèse, une étude randomisée qui montre une diminution du risque de la maladie après abaissement de la pression artérielle systolique, on en a parlé tout à l'heure avec le professeur Vacheron. Ce résultat n'a cependant pas été confirmé, mais il ne fait pas de doute que la prévention cardiovasculaire est essentielle, ne serait-ce que pour diminuer le nombre d'accidents vasculaires cérébraux responsables de démence vasculaire. Des facteurs nutritionnels interviennent probablement. Le vieillissement peut être à l'origine de modifications du comportement alimentaire et entraîner des déficiences nutritionnelles. L'analyse des relations entre consommation de nutriments et déclin cognitif est cependant complexe. Il est peu probable qu'un seul composé joue un rôle majeur. La notion d'une approche plus globale de la nutrition doit être développée. L'intérêt pour le régime méditerranéen en est un exemple. Des travaux convergents montrent une diminution du risque cardiovasculaire, de la mortalité et peut-être de la maladie d'Alzheimer avec une alimentation favorisant des apports élevés en légumes, fruits et céréales, en graisses insaturées, modérément élevés en produits laitiers et vins et faibles en viande. Cette longue liste de comportements ou de facteurs potentiellement protecteurs ne doit pas faire oublier la question essentielle. Ces comportements retardent-ils bien la survenue de la maladie ou à l'inverse, les premières lésions de la maladie ne modifient-elles pas le comportement des patients ? à l'origine d'un biais avec surestimation de l'effet de ces facteurs. Quoi qu'il en soit, il est logique de favoriser cette culture de la prévention qui cherche à retarder l'expression symptomatique des lésions de la maladie. Et il ne fait pas de doute que si on arrive, par exemple, à améliorer la circulation cérébrale en contrôlant l'hypertension artérielle, eh bien, on facilitera et on retardera, en tout cas, l'expression d'une maladie d'Alzheimer. Ça tombe sous la logique. La prévention primaire de la maladie d'Alzheimer dépendra de la qualité globale de la prévention en population générale. Et là, on rejoint un problème plus général qui est celui de l'éducation de la population. Il faut noter, et ça c'est intéressant, que les méthodes recommandées pour la prévention des maladies cardiovasculaires et du cancer sont applicables, semble-t-il, à la réduction de risque de la maladie d'Alzheimer. Donc on peut faire d'une pierre trois coups. C'est quand même intéressant. La prévention secondaire, une fois la maladie déclarée, dépendra quant à elle de la qualité d'organisation du système de soins, en particulier de son accessibilité par tous les citoyens. Pour conclure, je voudrais quand même remettre, si vous voulez, de façon centrale, la problématique qui est autour de la cible même de la cascade biologique, qui est celle qui nous permettra de traiter et de guérir la maladie. Donc pour conclure, découverte de médicaments physiopathologiques, ça c'est fondamental, mais aussi, on l'a dit, prévention et qualité de l'offre de soins, voilà les trois recettes pour une maîtrise de la maladie d'Alzheimer. Première cause de dépendance neurocognitive. Le plan Alzheimer, voulu par le président de la République, pourrait être l'occasion de renforcer ces trois domaines. En effet, si des progrès considérables ont été réalisés au cours de ces dernières années, l'effort de soutien dans notre pays n'est pas à la hauteur de l'enjeu de santé publique que représente cette affection. Il est temps de faire émerger ou de renforcer les pôles de recherche clinique et fondamentale, mais aussi en sciences humaines et sociales. L'attente est énorme. Souhaitons que les moyens soient à la hauteur de cette attente. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre la communication du médecin Bruno Dubois, professeur de neurologie à l'hôpital de la Salpêtrière, intitulé « Causes et prévention des dépendances neurocognitives devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques » le 19 novembre 2007.